Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Voilà, je suis là parce que votre professeur de philo n'a toujours pas été remplacé. Donc c'est moi qui, en attendant, vais assurer les cours.
La philosophie n'a plus à donner ses raisons. Je pense comme je suis et formulé comme un cri.
Voilà. D'autres questions ?
Lorsque l'État abuse, que faut-il faire ? Lorsque nous sommes convaincus, au fond de notre conscience, que ce que le gouvernement nous dicte de faire est une erreur monumentale, alors est-ce qu'il faut quand même courber les chines ? Derrière ces questions, il y a un petit ouvrage et un concept qu'on va explorer ensemble, celui de désobéissance civile, théorisé dans les années 1850 par Henry David Thoreau. Comment est-ce que je peux m'opposer à l'État ? On a vu que le vote ne servait à rien. C'est un bout de papier qui ne m'engage pas. Ce qu'il faut faire, c'est aller à la rencontre de l'État et s'y opposer. Moi, je rencontre le gouvernement ou son représentant directement, en face à face, quelques fois par an, pas plus, en la personne du policier et du collecteur d'impôts. C'est là l'unique modalité sous laquelle un homme, dans ma position, rencontre nécessairement le gouvernement. Et à cette occasion, le gouvernement dit, d'une voix claire, « Reconnaissez-moi ». Et la manière la plus simple, la plus efficace, et en l'état actuel des choses, la plus indispensable de traiter avec lui de cette question, d'exprimer le peu de satisfaction qu'il vous procure et le peu d'amour que vous éprouvez pour lui, est de lui signifier, en cette occasion, une fin de non-recevoir. C'est avec mon voisin civil, le collecteur d'impôts et le policier, et personne d'autre que je me trouve devoir traiter. Tant il est vrai qu'au bout du compte, c'est avec des hommes et non des parchemins que je me querelle. Et cet homme a volontairement choisi d'être un agent du gouvernement. Il ne pourra jamais aussi bien saisir ce qu'il est et ce qu'il fait en tant que fonctionnaire du gouvernement et en tant qu'homme que lorsqu'il se verra forcé de se demander s'il doit me traiter, moi, son voisin, pour qu'il éprouve du respect, en tant que voisin et homme de bonne disposition, ou bien en tant que fou et fauteur de troubles à l'ordre public. Et qu'il devra se demander alors s'il peut surmonter cette infraction au bon voisinage sans une pensée ou parole plus grossière et plus impétueuse dictée par sa mission. Sous un gouvernement qui emprisonne injustement, c'est en prison que l'homme juste est à sa place. Aujourd'hui, la place qui convient, la seule place que l'État offre à ses esprits les plus libres et les moins découragés, se trouve dans ses prisons, afin qu'ils y soient exclus de l'État par l'action de l'État lui-même, comme si ça sont déjà exclus du fait de leurs propres principes. C'est là, en prison, que l'esclave fugitif, le prisonnier mexicain libéré sur parole, ou l'Indien venu plaider les outrages faits à sa race les trouvera, en ce lieu distinct, mais plus libre et plus honorable, où l'État place ceux qui ne sont pas avec lui, mais contre lui. Le seul logis en lequel, dans un état esclavagiste, un homme puisse résider avec honneur. Ceux qui pensent qu'ils perdraient en ce lieu toute influence, ceux qui pensent que leur voix n'atteindrait plus les oreilles de l'État, ceux qui pensent qu'ils cesseraient d'être perçus comme une menace entre les murs de cette prison, ceux-là ne savent pas à quel point la vérité est plus forte que l'erreur, ni quel surcroît d'éloquence et d'efficacité l'on gagne à combattre l'injustice lorsqu'on l'a éprouvée, un tant soit peu dans sa chair. Glissez dans l'urne la totalité de votre vote, non pas seulement un morceau de papier, mais toute votre influence, toute minorité est impuissante tant qu'elle se confronte à la majorité. Elle n'est alors même pas une minorité, mais elle est irrésistible lorsqu'elle fait obstruction de tout son poids. Si le choix doit se jouer entre maintenir tous ces justes en prison ou mettre un terme à l'esclavage et à la guerre, l'État n'hésitera pas. Si 1000 hommes refusaient de payer leur impôt cette année, ils ne commettraient pas un acte aussi violent et sanguinaire que s'ils les payaient et permettaient ainsi à l'État d'exercer sa violence et de faire couler un sang innocent. C'est là, en réalité, la définition même de ce qu'est une révolution pacifique. Si le collecteur d'impôts ou n'importe quel agent de la puissance publique me demande, comme l'un d'entre eux le fit, « Mais que puis-je faire ?» Ma réponse est « Si vous désirez réellement faire quelque chose, alors démissionnez. » Lorsque le sujet a refusé de prêter allégeance et lorsque le fonctionnaire a démissionné de sa charge, alors la révolution est achevée.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Voilà, je suis là parce que votre professeur de philo n'a toujours pas été remplacé. Donc c'est moi qui, en attendant, vais assurer les cours.
La philosophie n'a plus à donner ses raisons. Je pense comme je suis et formulé comme un cri.
Voilà. D'autres questions ?